Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Cancer, osez en parler, le podcast de la Ligue contre le cancer Comité 13. Alors, à l'image d'Octobre Rose pour les cancers féminins, le mois de novembre est dédié au cancer masculin. Une campagne qui vise à sensibiliser les hommes au cancer masculin, comme le cancer de la prostate, le cancer des testicules ou le cancer de la vessie, et à récolter des fonds pour la recherche médicale. Avec nous, pour en parler aujourd'hui, Jean-Claude Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous présenter en deux mots.
En deux mots, je suis quelqu'un qui a été traité pour un cancer de la prostate il y a maintenant 12 ans. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours là.
Et en pleine forme.
Voilà. Je précise que je suis également membre du comité patient dans l'Institut Paoli Calmette et bénévole à la Ligue contre le cancer. J'ai également toujours une activité universitaire, puisque je suis professeur émérite à Aix-Marseille Université.
Alors, si on a voulu avoir à notre micro ce mois-ci, c'est parce que, comme vous le disiez, vous avez été touché par cette pathologie, mais également vous avez organisé des assises du cancer masculin.
Oui, peut-être que je pourrais expliquer par mon parcours personnel ce qui m'a amené à faire cette proposition au niveau de la Ligue, puisque la Ligue avait organisé ce type de rencontre. Et je pense que c'est quand même un petit peu intéressant parce que, en même temps, je pense que ça peut aider certaines personnes qui hésitent encore de voir les choses en face et de prendre conscience qu'à partir d'un certain âge, il faut se préoccuper de ce problème. Moi, dès l'âge de 50 ans, en accord avec mon médecin généraliste, j'ai décidé de faire un dosage de PSA. PSA est une molécule qui est sécrétée spécifiquement par la prostate. Lorsqu'on a fait ce dosage, il était à 2, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas trop de soucis à se faire, que malgré tout, il fallait une certaine vigilance. Donc, j'ai fait après de façon régulière des dosages, je dirais, annuels. Et ce PSA qui était à 2 est monté à 2,2, à 2,6, à 2,8. Et un jour, il a dépassé 4. Et là, on a dit, maintenant, il faut quand même aller un petit peu plus loin parce que ces choses ne sont pas normales. Donc, je suis allé consulter un urologue et effectivement, il y avait une anomalie au niveau de ma prostate. Ça a débouché sur une biopsie et le chirurgien en question m'a proposé de faire une opération sans me proposer d'autres alternatives à ma situation. Et j'insiste bien sur ce problème. On est en train, en ce moment, de parler du cancer précoce, c'est-à-dire avant qu'il ne devienne incontrôlable.
Un cancer qui est le premier cancer chez l'homme et qui touche jusqu'à 1 homme sur 10.
Voilà. Alors, à ce propos, on peut rappeler qu'il y a quand même 6000 personnes qui meurent du cancer de la prostate tous les ans, qu'il n'y a pas de dépistage systématique, il n'y a pas de programme national de dépistage du cancer de la prostate, contrairement au sein, au col de l'utérus ou au colorectal.
C'est ça, c'est qu'en fait, à la différence des femmes aussi qui consultent leur gynécologue régulièrement, les hommes, bien souvent, consultent lorsque la maladie est déjà malheureusement installée.
Voilà. Et là, je pense que notre entretien aujourd'hui est justement pour éviter de tomber dans ce piège du trop tard. Parce qu'un cancer de la prostate, lorsqu'il est pris précocement, on peut dire que la guérison est de 100, voire 90%. Le dépistage précoce est absolument essentiel. Alors, pour en finir à ce parcours qui a été le mien, j'étais un petit peu étonné qu'il n'y ait pas d'autre solution autre que l'opération. Alors, je vais la faire brève, l'histoire, mais malgré tout, il s'est avéré que c'était peut-être pas utile de m'opérer. Alors ce que j'ai fait un choix que je conseillerais à d'autres personnes si elles se trouvaient dans ma situation. Je suis allé frapper à la porte d'un établissement qui pouvait me proposer la panoplie des traitements qui pouvaient être mis en œuvre pour traiter la prostate. Effectivement, le médecin a conclu que l'opération était totalement inutile et il me proposait un autre traitement, beaucoup plus léger. Et même, il est allé plus loin que ça. Il m'a même dit, ce n'est peut-être pas utile, si vous le souhaitez, de vous opérer. On peut faire ce qu'on appelle une surveillance attentive. Et puisqu'on est là, parler un peu à corps ouvert de ce problème, j'ai retrouvé une vie privée normale, ce qui était quand même une préoccupation pour moi.
J'imagine bien, et ça, on va y revenir. Ce que vous venez de dire est très important, parce que vous le disiez, on vous a proposé une opération qui n'était peut-être pas nécessaire. Donc, celles et ceux qui nous écoutent, c'est important aussi qu'ils l'entendent ça. C'est important d'avoir deux avis, souvent.
Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les analyses nécessaires et que, par exemple, on a débouché sur une biopsie, que des cellules cancéreuses ont été détectées, là, il faut quand même arriver à poser un diagnostic précis et mettre en face de ce diagnostic un traitement qui soit adapté. Le plus souvent, si c'est fait précocement, l'opération est totalement inutile.
Oui. Alors, on rappelle aussi que ce cancer de la prostate évolue sans symptômes, d'où l'importance du diagnostic. Donc, on ne peut qu'inviter les hommes qui nous écoutent à partir de 50 ans, hein, c'est ça ?
Ah oui, oui, oui. Alors, je suis clair, hein, je ne suis pas médecin. C'est l'expérience que j'ai pu acquérir à travers, par exemple, les assises de la prostate ou les entretiens que j'ai eus au niveau de ces réunions qui étaient organisées de l'IPC et avec d'autres médecins, d'ailleurs. Mais 50 ans, ça paraît raisonnable, quoi. Un PSA, c'est un prélèvement de sanguin. On fait un dosage qui ne coûte pas très cher et on fait une sorte de T0 et on sait où on en est au niveau de cette pathologie. Et le plus souvent, bon, ben, tout est normal. Le point sur lequel il faut vraiment insister, ce n'est pas forcément le dosage absolu du PSA. Par exemple, à 2, vous avez des personnes qui sont à 2 et toute leur vie, elles resteront à 2. Moi, ce qui s'est passé, c'est que ma concentration à PSA évoluait. Et ce qui compte, c'est de suivre l'évolution.
Voilà. Et c'est ce suivi qui vous a peut-être sauvé, en tout cas qui vous a permis de traiter à temps ce problème-là.
Absolument.
L'importance du suivi, on ne le dira jamais assez. On va parler de ces assises de la prostate. Vous avez organisé ça. Pourquoi ? Justement parce que vous êtes, au moment où ça vous est arrivé, est-ce que vous vous sentiez seul ?
Eh bien, écoutez, que ce soit au niveau des assises de la prostate ou des personnes que j'avais rencontrées aussi au niveau de la Ligue, je pense qu'il y a une petite faille au niveau du corps médical qui traite le patient, mais qui ne va peut-être pas assez loin dans les conséquences sur la vie privée. Alors, je ne dis pas que c'est généralisé, hein, parce qu'il y a... Je sais qu'il y a des médecins qui, justement, se préoccupent des effets secondaires en ce qui concerne le traitement. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence dans la vie privée ? Que la responsable du comité, je lui ai proposé de faire une rencontre, de regrouper des personnes qui avaient été opérées ou pas, qui avaient été traitées pour le cancer de la prostate. Et on a fait ce qu'on appelait des échanges, qu'on faisait tous les mois, de façon informelle. Et il y avait trois mots clés, c'était convivialité, confiance et surtout confidentialité.
Oui, alors ça c'est important parce qu'il est possible de maintenir une vie sexuelle, évidemment, pendant et après le traitement d'un cancer. Même si ce sont des moments où la priorité est de pouvoir guérir, il faut pouvoir exprimer ces difficultés affectives, intimes, sexuelles. Les effets peuvent être fonctionnels et ou psychologiques. Ils sont évidemment différents et variables d'un homme à l'autre, mais c'est essentiel pour un homme de pouvoir en parler avec d'autres hommes, et d'où l'importance de ce genre d'assises ou de ce lieu ici comme la Maison Bien-être, où on peut venir se sentir écouté, échanger avec des psychologues, d'autres personnes. Ça, c'est très important à ce moment-là.
Ah oui, alors, vous voyez, vous dites en parler avec des psychologues, mais là, l'objectif, justement, ce n'était pas un groupe de parole. Un groupe de parole, il faut qu'il y ait un professionnel. Et justement, il n'y avait pas de tierce personne dans ces réunions. Il n'y avait que des hommes qui avaient été traités du cancer de la prostate et qui en vivaient les conséquences.
Donc là, les deux sont complémentaires. Voilà. Il y a ces assises et la Maison Bien-être.
Absolument.
Qui proposent autre chose.
Et ce que je voudrais dire, parce que moi-même, après l'opération, j'ai eu un petit traitement médicamenteux, léger. Alors l'âge que j'avais... À l'époque, j'avais 70 ans, c'était un petit peu difficile de savoir si la diminution dans ma vie privée était liée à l'âge ou au traitement. Donc, j'ai anticipé, j'ai pris un petit traitement. Je ne vous cache pas que pendant plusieurs mois, je l'ai pris sans en parler à mon épouse. Est-ce que je n'osais pas ? Est-ce que ça me gênait ? Et il a fallu du temps pour que je lui dise, ben, tu sais... Oui, je prends, et je ne dis pas le nom du médicament, mais voilà, je veux dire une chose, ce n'est pas du Viagra. Voilà.
Donc, mais c'est tellement important ce que vous êtes en train de nous dire, parce que tous ces hommes à qui ça peut arriver se posent la question, forcément, parce que ça bouleverse la vie intime, la vie de couple, et c'est très perturbant.
Absolument.
Donc c'est important qu'on leur dise, mais il existe des solutions.
Le fait d'en parler à son épouse, ça écroule une barrière déjà psychologique. Le fait de ne pas le dire, d'avoir ce... petit truc secret, qu'on prend en douce, c'est pas sain ça. Il faut pas oublier qu'on parle dans l'opération, on parle effectivement de la sexualité, mais il faut parler aussi des risques d'incontinence. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Moi je pense que c'est une maladie qui touche l'homme, mais c'est une maladie qui doit ensuite être vécue par le couple et pas par l'homme tout seul dans son coin.
Bien sûr, ça aussi c'est important. De ce que vous venez de nous dire, en fait, je retiens deux choses. L'importance du diagnostic, on le dira jamais assez, du suivi. Encore une fois, on n'est pas tout à fait à égalité hommes et femmes, donc aux hommes de se prendre en main dès 50 ans, on fait attention, on se fait diagnostiquer, on se fait suivre, et l'importance de la communication au sein du couple évidemment, avec ses proches, Et puis plus largement, avec d'autres hommes, ça existe, il y a des groupes de parole et c'est essentiel de se retrouver avec des gens qui vivent la même épreuve finalement.
Mais bien sûr, parce qu'on est frappé par ce genre d'effets secondaires. On a tendance à se replier sur soi-même. Et puis c'est vrai, pour un homme, c'est quelque chose qui est terrible. Et là, les groupes justement de rencontres, c'est extraordinaire parce que là, toutes les barrières s'écroulent et tout le monde parle librement. Et moi, j'ai été, je peux le dire, ça a été la grande surprise. C'est de voir à quel point la parole se libérait dans ces conditions. Et chacun en a tiré quelque chose.
Est-ce que ces assises se sont pérennisées ?
On a fait ça pendant quelques mois. Et puis après, bon, les gens, comment dirais-je, n'ont pas jugé utile de continuer. Donc comme un accord, on a dit, bon, ben, on s'arrête. Et puis, on s'est entendu avec la directrice. On a dit, si jamais à nouveau, il y a des gens qui souhaitent repartir sur ce type de rencontre, ben, on le fera.
À bon entendeur.
Voilà.
On a beaucoup parlé du cancer de la prostate et c'est bien normal puisque ça vous a touché personnellement. Les cancers masculins, c'est également testicules, vessie. Qu'est-ce que vous pensez de ce mois, cette communication et ce coup de projecteur finalement qui est enfin donné sur les cancers masculins ? Je dis enfin parce que ça n'a pas toujours été le cas.
Ah bien moi, ça me paraît essentiel. Le problème qu'il y a, c'est que je fais partie d'une association. Justement, cette association se bat pour faire reconnaître ce type de cancer, pour qu'il y rentre dans un programme de dépistage. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc peut-être que là, ça peut faire passer des messages au niveau de certaines autorités sanitaires pour dire qu'effectivement, je ne vois pas pourquoi on ne fait pas, à partir de 50 ans, un dosage de PSA. C'est absolument inoffensif, non douloureux, ça ne coûte pas très cher et ça peut sauver tellement de situations.
Donc espérons que ce mouvement continue de faire évoluer les choses, rapporte de l'argent pour la recherche aussi, parce que c'est également le cas et l'objectif de Movember. Monsieur Bertrand, merci mille fois de votre témoignage.
Eh bien écoutez, j'espère que ça aura quelque utilité.
J'en suis absolument convaincue. Merci mille fois. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec un épisode consacré aux aidants. À très vite.
Bonjour, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté ce podcast réalisé par la Ligue régionale dans le cadre du plan cancer de la région Sud. Merci à vous.